Le commandant-chef de l'armée de terre iranienne a fait part du test d'un missile intelligent d'une portée de 300 km en Iran. La DSA syrienne s'est activée ce lundi 15 février à l'aube pour répondre à une attaque au missile israélien contre Damas, la capitale, et G5 Sahel, l'avenir de l'opération Barkhane au menu du sommet de N'Djamena. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le commandant-chef de l'armée de terre iranienne a fait part du test d'un missile intelligent d'une portée de 300 km en Iran. Le général de brigade Amir Kiomar Seydali a déclaré le dimanche 14 février que l'unité de missiles de l'armée de terre a testé un missile d'une portée de 300 km et a évoqué les capacités de l'armée dans le domaine de l'artillerie, des lance-roquettes et des roquettes. Ce missile se place dans la catégorie des missiles de portée moyenne et aujourd'hui, nous le mesurons en termes de précision et de puissance, a-t-il indiqué. Concernant les coordonnées opérationnelles de ce missile, le général Seydali a précisé que c'est un missile de précision intelligent et automatisé. Il est prêt à défendre les frontières de la République islamique d'Iran dans différentes conditions météorologiques. Les exercices RTDAL 99, autorité en persan, de l'armée de terre débutés le 19 janvier dernier, sont une démonstration du pouvoir de dissuasion des forces terrestres iraniennes. Ils ont duré 2 jours sur la rive de Makran. Y ont participé les brigades aéroportées de Shiraz, des forces spéciales et de réaction rapide avec le soutien de l'armée de l'air. L'exercice comprenait des opérations nouvelles, notamment des opérations aériennes et navales combinées, utilisant du matériel de plongée approprié CCTV ainsi que des raids nocturnes sur des hélicoptères aéroportés utilisant des systèmes de vision nocturne. L'Iran et la Russie organiseront bientôt un exercice naval conjoint dans le nord de l'océan Indien, a réaffirmé le coordinateur adjoint de l'armée iranienne. Le contre-amiral Habibullah Sayali a déclaré le dimanche 14 février que la participation de la puissante marine de la Russie à un exercice conjoint avec les forces navales de l'armée iranienne et du corps des gardiens de la révolution islamique mettait en évidence les grandes capacités maritimes des forces armées iraniennes. Quant aux équipements, forces humaines, techniques, tactiques, systèmes de communication et commandement, la marine iranienne se trouve au même niveau que les puissances mondiales, a souligné l'amiral Sayali, qui a ensuite ajouté que l'exercice conjoint Iran-Russe visait à assurer la sécurité du nord de l'océan Indien. Depuis la victoire de la révolution islamique, l'Iran fait face à de nombreuses menaces, mais tous les plans des ennemis ont jusqu'ici échoué en raison de la puissance de dissuasion des forces armées de la République islamique d'Iran que nous devons continuer de renforcer, a déclaré le coordinateur adjoint de l'armée. Le contre-amiral Sayali a indiqué que les forces armées de la République islamique d'Iran, notamment l'armée iranienne, avaient pour mission d'assurer l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays et qu'elles étaient en mesure de neutraliser les menaces actuelles et futures. Lundi 8 février, l'ambassadeur de la Russie en Iran a fait part de la décision de Téhéran et de Moscou d'organiser un exercice naval conjoint la mi-février dans les eaux de l'océan Indien. Le mouvement irakien Saïb al-Haq a publié le dimanche 14 février un communiqué exhortant le gouvernement turc à respecter les principes de bon voisinage et à retirer ses troupes d'Irak et de toutes les zones frontalières. Le communiqué indique que l'armée turque a menacé d'envahir de nouveau le territoire irakien. Selon certaines informations, la Turquie envisagerait de lancer une offensive militaire dans la région montagneuse de Sinjar, libérée des mains de Daesh au prix du sang de nombreux Irakiens. Nous condamnons la violation de la souveraineté de l'Irak, mais l'occupation du territoire irakien par la Turquie, pays voisin et musulman, est une violation de toutes les valeurs divines et du droit international, alors que nos relations doivent être basées sur le bon voisinage, le respect et la coopération mutuelle, lit-on dans le communiqué. Le mouvement appelle le gouvernement de Bagdad à user de son pouvoir légal pour s'opposer fermement à une telle agression et procéder conformément à la volonté du peuple à l'expulsion de toutes les troupes étrangères du pays. Il appelle aussi le peuple irakien à se joindre et soutenir l'armée et le soulèvement populaire dans le but de mettre fin aux hostilités et de rétablir rapidement la stabilité et la sécurité dans le pays. Sous prétexte de combattre le PKK, le président turc a récemment déclaré que les forces turques pourraient lancer à tout moment une opération à Sinjar. Les préoccupations de la Turquie, du Kurdistan irakien et du gouvernement fédéral d'Irak à propos de Sinjar ont débouché sur un accord pour le déploiement des forces fédérales et des Peshmerga à Erbil et Bagdad depuis l'automne 2021. Depuis quelque temps, de nombreux rapports font état des attaques turques contre Sinjar et de son occupation sous prétexte d'affronter le PKK. L'aéroport international d'Apa a été de nouveau frappé par les forces yéménites. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Salih, a déclaré dimanche que les combattants yéménites avaient attaqué l'aéroport international d'Apa en Arabie saoudite en réponse aux raids aériens saoudiens et au blocus du Yémen par la coalition d'agression dirigée par Riyad. L'aéroport saoudien a été frappé par deux drones de type Samad 2 et Samad 3. 6 ans après son déclenchement, la guerre du Yémen est porteuse de nombreuses leçons stratégiques, militaires et politiques, indique le site web Al-Ruds Al-Arabi. La guerre du Yémen semble vivre ses dernières phases en raison des capacités accrues des Yéménites de prendre pour cible le territoire saoudien ainsi qu'à la décision de Washington de mettre un terme sur son soutien à la coalition d'agression saoudienne. Mais avant qu'elle ne prenne fin, il convient d'en tirer des leçons. Comment un pays riche aux immenses ressources militaires s'est vu incapable non seulement de remporter la guerre, mais de protéger son espace aérien et sa terre, indique l'article. La DSA syrienne s'est activée le lundi 15 février à Alep pour répondre à une attaque aux missiles israéliens contre Damas, la capitale. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté, citant l'armée syrienne, que les défenses aériennes du pays avaient intercepté une agression israélienne contre la capitale. Des avions militaires israéliens ont survolé les hauteurs du Golan pour frapper des cibles sélectionnées à la périphérie de la capitale. La DSA a abattu la plupart des missiles, apprend-on du communiqué de l'armée qui toutefois ne mentionne pas le nombre des victimes. Nos défenses aériennes continuent de repousser les attaques de missiles israéliens au-dessus de la capitale, a déclaré l'armée syrienne. 5 pays du Sahel et la France se réunissent en sommet lundi 15 février pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région. Les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, sont annoncés présents à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président français Emmanuel Macron participera pour sa part en visioconférence. L'engagement de l'armée française au Sahel et la question de son éventuel retrait dans la région seront aussi au centre des discussions. Le sommet de 2 jours, associant dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux, a lieu 1 an après celui de Pau, sud-ouest de la France, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir terroristes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4 500 à 5 100. En dépit des succès tactiques revendiqués, le tableau demeure très sombre. Plus de 8 ans après le début, dans le nord du Mali, d'une crise sécuritaire qui continue à étendre ses métastases à la sous-région. Quasiment pas un jour ne passe dans les 3 principaux pays affligés sans une attaque contre ce qui reste de représentation de l'État, l'explosion d'une mine artisanale ou des exactions contre les civils. L'armée française prétend avoir sérieusement affaibli Daesh et tué plusieurs chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, mais les 2 principales nébuleuses terroristes restent très actifs. Il y a 1 an à Pau, en janvier 2020, après l'envoi d'un ultime renfort de troupes, Emmanuel Macron avait promis de faire un état des lieux de l'engagement français dans la région avec les chefs d'État du G5 Sahel. Après 8 ans de guerre, ce rendez-vous à distance par visioconférence pour le président français, du moins, avait été présenté comme la possible occasion d'annoncer des décisions couperées, dont un début de retrait de l'armée française. Le contexte s'avère cependant plus complexe que prévu. La question de l'ajustement du dispositif et de ses modalités sera discutée au cours des prochaines semaines ou mois avec nos partenaires, indiquait-on ainsi prudemment jeudi à l'Élysée. Sur ce genre de dossier, le chef de l'État a habitué ses collaborateurs à des revirements de dernière minute. Rien n'est donc à exclure, mais l'élan se relève bien plus ténu que celui qui était porté notamment par l'état-major des armées depuis fin 2020. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Israël ferme son espace aérien. Est-ce pour cause de COVID-19? Pour la seconde fois depuis le début de l'année en cours, le cabinet sécuritaire israélien a ordonné dans la précipitation la fermeture de l'aéroport international de Ben Gurion et partant de l'espace aérien d'Israël, et ce sous prétexte pandémique. La mesure prise sur fond d'un cocorico sanitaire visant à faire croire à un miracle israélien en termes de contrôle COVID-19 a pris de court des milliers de sionistes éparpillés à travers le monde. Netanyahou, lui, l'a défendu en nom des mutations virales qu'il faut éviter à tout prix. Mais est-ce la vraie raison? Le samedi 13 février, à peine quelques heures après des remaniements hâtifs au sein du renseignement de l'armée sioniste, Amman, lesquels remaniements répondraient selon des fuites à une opération commando hostile visant la plus grande base aérienne d'Israël, Nevatim, et surtout ses hangars de F-35 à dire. Et alors que l'enquête sur ce mystérieux braquage qu'Israël dit être l'œuvre des Bédouins du Negev et en retrouvait soudain d'extraordinaires capacités de forcer un impressionnant système de surveillance composé d'un double mur, d'un fossé et des barbelés électriques, un avion israélien s'est écrasé à Afula, à 80 km des frontières du territoire occupé avec le sud Liban. Une première information sur l'incident, visiblement produit vers midi et rapportée par la chaîne 13 israélienne, est bien vague et refuse d'identifier l'appareil comme civil ou militaire, se contentant uniquement de signaler que ces deux passagers ont été blessés. C'est quelques heures plus tard que cette même source annonce, sans trop de détails, la mort de ces deux passagers. Est-ce un incident? Rien n'est moins sûr. Début février, en l'espace d'à peine 4 jours, 4 drones de l'armée sioniste ont été interceptés de façon quasi synchrone à 2 extrémités nord et sud des territoires occupés sous les yeux ahuris d'une armée sioniste qui s'offre à protéger le ciel des alliés du Golfe. La dernière interception, celle d'un drone tactique de type Hermes 450, avec comme souligne la page d'accueil du constructeur Elbit, quelques 300 000 heures de mission réussie à occuper le souffle aux Israéliens. Le coup signé le Hezbollah a fait sortir l'entité d'une longue et fatale torpeur. Le ciel du Liban échappe après 6 ans de totale emprise à compter du retrait de l'armée syrienne du sud du Liban en 2005 à l'entité et il n'est plus cette base arrière d'où lancer impunément des raids aux missiles de croisière contre la Syrie ou le Liban. S'il est vrai que l'armée israélienne s'est refusée de reconnaître le coup de jarnac aérien que le Hezbollah vient de lui infliger, les chroniqueurs militaires israéliens ne peuvent pas, eux, cacher leur tête dans la sable. Dans un article daté du dimanche 13 février, Yoav Limor, qui écrit pour Israël Hayom, affirme que Nasrallah vient de tenir la parole, et ce de la pire des façons qui soit pour Israël. Une promesse faite il y a 2 ans quand un drone israélien s'en est pris à Zahia, au sud du Liban, ayant fait dire au Hezbollah que le mouvement fermera définitivement le ciel libanais à Israël.